cette histoire ne devrait pas être écoutée par les personnes trop sensibles. Même les policiers expérimentés, habitués depuis des années aux crimes les plus terribles, ont dû chercher une aide psychologique après ce qu'ils ont vu dans cette cave. Un matin d'octobre 2015, la petite ville en périphérie du New Hampshire vivait encore sa vie habituelle. Il se passait rarement quelque chose ici qui méritait l'attention, même du journal local. La monotonie et le silence semblaient tout faire partie de l'essence même de cet endroit. Les habitants locaux étaient habitués à ce que rien de vraiment terrible ne puisse arriver ici. Mais ce jour-là a changé à jamais la perception des citadins de leur petit monde sûr. La maison numéro 17 de la rue Chestnut était une vieille bâtisse sans attrait qui n'attirait plus l'attention de personne depuis longtemps. Elle se trouvait presque au bout de la rue, derrière un jardin négligé et une clôture à moitié détruite, et semblait oubliée de tous depuis longtemps. Les propriétaires changeaient presque chaque année. Certains essayaient de la réparer. D'autres la louaient simplement et partaient plus loin. Mais l'essentiel était le même. La maison était plus souvent vide qu'habitée. Le nouveau propriétaire, John Henderson, décida de s'attaquer sérieusement à la restauration de la maison, rêvant de s'y installer enfin pour longtemps. Dès le début, il comprit qu'il y avait beaucoup de travail à faire. La maison était restée abandonnée pendant près de 2 ans. Le sous-sol était rempli de vieux meubles, d'outils cassés et d'autres détritus inutiles. C'est pourquoi John décida de commencer précisément par là, par la cave, qui lui inspirait un sentiment particulièrement désagréable. Vers le soir, John descendit par le vieil escalier grinçant. Le faible éclairage permettait à peine de distinguer les objets, mais au milieu du chaos, il remarqua un objet étrange dans un coin. C'était un fût en métal, recouvert de profondes couches de rouille, comme s'il avait été délibérément caché derrière d'autres choses. Il tenta de le déplacer, mais il s'avéra lourd et presque impossible à soulever. Plus il regardait le fût, plus il ressentait une anxiété inexplicable. John n'était pas du genre peureux, mais il sentit maintenant qu'il ne voulait pas rester seul avec cette chose. Le lendemain matin, appelant un ami, il décida de comprendre cette étrange trouvaille. À deux, ils sortirent le fût à la lumière avec difficulté et tentèrent de l'ouvrir. Le couvercle semblait soudé au métal, mais après plusieurs tentatives, il céda finalement. C'est à ce moment précis que la vie de John se divisa en un « avant » et un « après ». Ce qu'il vit à l'intérieur resta gravé à jamais dans sa mémoire. Il sentit ses jambes flageoler et l'air dans la cave devint lourd et visqueux. Dans une couverture qui avait perdu ses couleurs depuis longtemps, se trouvaient des restes qui étaient restés là pendant de longues années. La vision fut si choquante que son ami courut instantanément à l'étage et, se retenant à peine, appela la police. Les premières voitures de police apparurent près de la maison quelques minutes plus tard. John était assis sur les marches de la maison, pâle et complètement perdu, répondant aux questions des enquêteurs de manière monosyllabique et confuse. Il était sûr que sa vie tranquille dans cette ville n'existerait définitivement plus. Mais le pire était encore à venir. Lorsque les policiers descendirent, ce qu'ils virent choqua même les agents les plus expérimentés. Les gardiens de l'ordre locaux, habitués aux disputes familiales et aux petits vols, restèrent figés, essayant de comprendre à quoi ils allaient être confrontés. Plus tard, alors qu'un des détectives discutait avec ses collègues, il dit « Nous pensions avoir tout vu, mais ce qu'il y avait dans ce fût a fait que beaucoup d'entre nous se sont demandé si nous ne travaillions pas dans la police depuis trop longtemps. Ce n'était pas simplement une autre scène de crime. L'atmosphère même qui entourait la découverte était insupportable. Ça sentait l'humidité, la décomposition et quelque chose d'autre, difficile à expliquer, qui faisait ressentir aux personnes dans la cave une sensation de panique, presque physique. Un des jeunes officiers, après la première inspection, sortit en courant dans la rue et mit longtemps à se remettre. Un autre demanda à être immédiatement relevé de la suite du travail sur la scène de crime. C'est cet état que les journaux locaux décrivirent plus tard par une courte phrase en allemand « Die Polizisten erlitt einen Nervenzusammenbruch bei dem Anblick ». Les policiers ont subi une crise de nerfs à cette vue. L'enquête, qui commença ce jour-là, se heurta immédiatement à un grave problème. Personne en ville n'était au courant de la disparition d'une personne à l'époque où cela s'était produit. Les policiers vérifièrent les archives des deux dernières décennies, interrogèrent les habitants locaux, mais partout, ils ne rencontrèrent que des regards surpris et des réponses négatives. Les gens commencèrent à chuchoter entre eux. La ville se remplit de rumeurs, mais aucune d'elles ne répondait à la question principale. Qui était-ce ? Des détails importants émergèrent un peu plus tard. Les experts indiquèrent une date approximative. Cela ne s'était pas produit hier, ni il y a un an, mais au milieu des années 90. Pendant plus de 20 ans, quelqu'un avait caché ce secret dans une maison ordinaire par laquelle était collé à passer des dizaines de personnes, sans rien soupçonner de l'horreur cachée littéralement sous leurs pieds. Les enquêteurs commencèrent à vérifier tous ceux qui avaient vécu dans la maison ou pouvaient y être liés d'une manière ou d'une autre. Le premier suspect fut l'ancien propriétaire qui avait soudainement vendu la maison à vil prix et quitté la ville sans explication. Son identité soulevait de nombreuses questions, mais l'essentiel n'était pas là. Plus la police étudiait la maison, plus elle découvrait d'étrangetés que personne n'avait remarquées auparavant. Il restait une autre personne qui suscitait des soupçons. Le voisin, un homme âgé et silencieux qui avait vécu toute sa vie de l'autre côté de la rue. Lors des interrogatoires, il répondait laconiquement, détournait le regard et répétait constamment qu'il ne savait rien. Mais c'est précisément dans son comportement que les policiers remarquèrent une nervosité cachée. La ville se figea dans l'attente. Le temps passait, la tension montait, et les gens comprenaient déjà que cette affaire ne ressemblerait à aucune autre. Le mystère était trop profond et trop sombre, et sa résolution changerait à jamais non seulement la petite ville, mais aussi le destin de tous ceux qui y vivaient. Mais l'essentiel était que cette découverte n'était que le début d'une longue et terrifiante histoire qui pousserait beaucoup à se demander « Connaissons-nous vraiment si bien ceux qui vivent à côté de nous ?» Les nouvelles de la découverte dans la maison numéro 17 se répandirent comme une traînée de poudre. Déjà le soir même, la rue Chestnut était pleine de voitures de journalistes et de badauds locaux. Cependant, un cordon fut bientôt établi autour de la maison derrière lequel personne n'était autorisé à passer. Les policiers étaient très clairement nerveux. Dans toute l'histoire de cet endroit, il n'y avait jamais eu de crime de ce genre. Pour une petite ville, qui ne voyait même pas souvent de vols importants, la découverte de restes de ce type fut un véritable choc. L'expertise commença immédiatement et les conclusions préliminaires des criminalistes furent annoncées dès le lendemain matin. Il s'avéra que cela s'était produit il y a environ 20 ans, au milieu des années 90. Ce détail laissa définitivement les enquêteurs perplexes. Comment était-il possible que pendant toutes ces années, personne n'ait remarqué la disparition d'une personne de cet âge? Il n'y avait pas eu de déclaration de disparition, pas de photos dans les archives de la police, pas même de rumeurs selon lesquelles quelqu'un avait cessé d'apparaître à l'école ou dans les rues de la ville. Celui qui avait été retrouvé dans la vieille maison semblait n'avoir jamais existé dans ce monde, et cela déconcertait même les policiers expérimentés. À ce stade de l'enquête, les détectives décidèrent d'étudier attentivement l'histoire de la maison elle-même. Elle avait été construite au début des années 1950, avait appartenu à la même famille pendant environ 30 ans, puis avait changé de propriétaire plusieurs fois. Les registres des archives municipales montrèrent qu'entre 1990 et 1996, la maison appartenait à un certain Patrick O'Connor, un homme réservé et silencieux dont les voisins ne se souvenaient presque de rien. Seule une vieille voisine, vivant à trois maisons de là, remarqua que M. O'Connor était soi-disant étrange et sortait très rarement de chez lui. Cependant, elle ne put fournir plus de détails. Lorsque la police commença à rechercher O'Connor lui-même, il s'avéra qu'il avait déménagé dans un autre état depuis longtemps, vendant la maison à la fin des années 90. Il l'avait vendue rapidement et à un prix assez bas. Ce fait éveilla les soupçons de l'enquête. Les détectives partirent à sa recherche, espérant obtenir des informations. Mais lorsqu'ils trouvèrent l'ancien propriétaire, déjà un homme âgé, il parut absolument sincèrement surpris. O'Connor répondit volontiers aux questions, parlait lentement, calmement, avec assurance. Il expliqua qu'il avait vendu la maison à bas prix parce qu'il avait un besoin urgent d'argent après son divorce et de la ville. Il ne voulait qu'une chose, la quitter au plus vite. Les détectives vérifièrent à chacune de ses paroles. L'alibi s'avéra irréfutable, confirmé par des documents. Pendant ce temps, les habitants locaux se souvenaient de plus en plus d'une autre personne, un vieil homme nommé Benjamin Sullivan, ce même voisin dont la maison se trouvait en face, de l'autre côté de la rue. Sullivan ne communiquait jamais avec ses voisins, préférant une solitude tranquille. Certains disaient que c'était un homme étrange. D'autres le considéraient simplement comme un vieux retraité inoffensif. Mais la police s'accrocha à sa silhouette non par hasard. Un des témoins affirma que dans les années 90, il avait remarqué à plusieurs reprises comment Sullivan se rendait chez O'Connor lorsque celui-ci n'était pas en ville. Les policiers rendirent visite à Benjamin Sullivan et le trouvèrent dans un état d'extrême irritation. Le vieil homme était clairement mécontent de leur apparition, mais fut obligé de répondre aux questions. Il admit qu'il surveillait parfois la maison pendant que O'Connor était en voyage d'affaires. Mais il nia y avoir vu quelqu'un d'étranger ou quelque chose d'inhabituel. Il parlait brusquement, tapotant nerveusement ses doigts sur la table, évitant le regard direct. Les policiers sentirent son malaise. Mais le vieil homme refusa de donner d'autres explications. Les détectives revinrent plus tard, exigeant des échantillons pour comparer l'ADN. Ce à quoi Sullivan refusa catégoriquement, déclarant qu'il ne voyait aucune raison de se soumettre au test puisqu'il n'avait commis aucun crime. La tension montait. Le troisième jour de l'enquête, la police reçut les résultats de l'analyse ADN trouvée sur la couverture. La trace s'avéra être masculine et, étonnamment, ne correspondait ni à O'Connor ni aux échantillons déjà présents dans la base de données de la police. Quiconque avait commis ce crime n'avait jamais été dans le radar des forces de l'ordre auparavant. L'enquête décida d'élargir le cercle de recherche. Ils commencèrent à vérifier tous les parents et connaissances des anciens propriétaires. Des enquêteurs des États voisins commencèrent à arriver en ville, menant des interrogatoires de plusieurs heures. On obligeait les gens à se souvenir de n'importe quel petit détail qui pourrait avoir de l'importance. Et là encore, ils se heurtèrent à un mur infranchissable. Personne ne pouvait donner ni le nom, ni le prénom, ni même le lieu approximatif d'où la victime aurait pu venir. La police commença à étudier l'environnement de la maison dans les années où, probablement, tout s'était passé. Ils consultèrent les archives des appels téléphoniques, vérifièrent les transactions financières d'O'Connor et de ses voisins. Mais tout semblait propre et lisse, sans le moindre indice. Pendant ce temps, l'atmosphère dans la ville devenait de plus en plus lourde. Les gens ne cachaient plus leurs peurs et leurs tensions, évitèrent la communication, commençaient à s'enfermer chez eux. Il semblait que chaque détail du passé pouvait être la clé pour percer ce mystère terrifiant qui avait vécu si longtemps parmi eux sans être remarqué par personne. Finalement, la police obtint l'accès à de vieilles photographies des voisins et à des documents d'archives. Parmi les clichés jaunis, apparut de manière inattendue un homme que personne n'avait remarqué auparavant. Un homme grand, debout à côté d'O'Connor. Personne ne pouvait dire qui c'était. La police décida de le retrouver, mais découvrit bientôt que cet homme était mort dans un accident de voiture à la fin des années 90. La ville, plongée dans la peur et l'anxiété, commençait progressivement à réaliser qu'elle était confrontée à une histoire qui n'appartenait pas à la catégorie des crimes simples. C'était une histoire où même les policiers sentaient le sol se dérober sous leurs pieds. Personne ne comprenait encore à quel point l'abîme qui s'était ouvert sous la maison numéro 17 était profond et sombre. Mais il était déjà évident. Ce n'était vraiment pas pour les âmes sensibles. Mi-novembre 2015, la petite ville nichée au cœur des épaisses forêts du New Hampshire s'enfonçait dans une attente pesante de réponses qui ne venaient pas. Les gens avaient même cessé de partager les rumeurs entre eux, craignant de prononcer à voix haute ce qui les effrayait le plus. Un meurtrier avait vécu à leur côté pendant toutes ces années. Pendant ce temps, les détectives cherchaient le moindre indice dans le passé, épluchant de vieilles photographies, des documents oubliés et les témoignages de personnes ayant quitté cet endroit depuis longtemps. La maison numéro 17 de la rue Chestnut restait le centre de l'attention policière, bien que les policiers eux-mêmes fussent las de l'impasse interminable dans laquelle se trouvait l'affaire. Le commissaire de police du comté avoua lors d'une réunion à huis clos qu'en 20 ans de carrière, il n'avait jamais été confronté à une enquête aussi complexe. Il déclara ouvertement à ses collègues « Nous devons nous préparer à ce que cette affaire reste non résolue. » Mais personne ne voulait admettre la défaite à voix haute. Les enquêteurs décidèrent alors de retourner aux vieilles archives, dans l'espoir d'avoir manqué un petit détail auquel ils n'avaient pas prêté attention auparavant. Et effectivement, à leur grande surprise, ils découvrirent une photographie prise vers le milieu des années 90. Sur la photo se trouvaient trois hommes. L'ancien propriétaire de la maison, Patrick O'Connor, son frère Thomas O'Connor et un inconnu qui n'était jamais apparu dans le champ de vision de la police jusqu'alors. L'homme était grand, avec une expression maussade, et se tenait légèrement en retrait des autres, comme s'il ne voulait pas être sur la photo. La vérification de cette photographie commença. Patrick O'Connor confirma que près de lui se trouvait son frère cadet Thomas, décédé dans un accident de voiture en 1998. Mais il ne put ou ne voulut pas se souvenir du nom du troisième homme. Les détectives sentirent son embarras, mais Patrick insista sur le fait qu'il connaissait à peine cet homme, rejetant silencieusement toutes les tentatives de l'enquête pour obtenir plus d'informations de sa part. La police se tourna alors vers un détective senior à la retraite qui avait travaillé dans la ville dans les années 90. Le vieux détective regarda longuement la photo, puis se souvint à contre-cœur du nom du troisième homme. C'était Gregory Miller, un homme arrivé dans la ville au début des années 90 depuis l'état du Vermont. Miller travaillait comme ouvrier sur des chantiers, changeait souvent de lieu de résidence et restait rarement au même endroit plus de quelques mois. Après 1997, personne ne l'avait revu en ville. La police se concentra désormais sur la recherche de Gregory Miller. Les enquêteurs supposèrent que c'était peut-être cet homme qui avait laissé son ADN sur la couverture. Des demandes furent envoyées à plusieurs États voisins. Des bases de données furent vérifiées et des dizaines de personnes furent interrogées. Finalement, Miller fut retrouvé dans une petite ville du Massachusetts, où il travaillait comme mécanicien dans un garage automobile. Lorsque les détectives le rencontrèrent, Miller parut déconcerté et sincèrement surpris. Il confirma immédiatement qu'il avait bien vécu dans la ville, rue Chestnut, et qu'il était allé plusieurs fois rendre visite aux frères O'Connor. Mais il nia toute implication dans quelque chose de grave. Miller raconta que les frères se disputaient constamment et que leur relation était très tendue. Il se souvint d'avoir surpris un jour Thomas O'Connor en état d'ébriété avancée, menaçant son frère. Mais il se tut rapidement et déclara qu'il ne voulait plus rien dire sans avocat. Les détectives obtinrent un échantillon de son ADN et retournèrent au New Hampshire. Pendant ce temps, les habitants de la ville mentionnaient de plus en plus le nom de Thomas O'Connor. Plus on se souvenait de lui, plus des histoires sombres et désagréables refaisaient surface. Il s'avéra que Thomas était une personne agressive et conflictuelle, abusait souvent de l'alcool et avait été arrêté plusieurs fois pour des délits mineurs dans d'autres états. Mais tous ces détails avaient été cachés aux habitants par sa famille, qui tentait de préserver une apparence de bien-être. Patrick O'Connor fut de nouveau convoqué par la police. Cette fois, l'interrogatoire fut dur et prolongé. Les policiers insistèrent pour qu'il révèle enfin les détails du conflit avec son frère. Patrick resta longtemps silencieux, puis raconta finalement que Thomas était effectivement venu plusieurs fois chez lui dans un état de grande agitation, exigeant de l'argent et l'accusant d'avoir ruiné sa vie. La dernière fois qu'il avait vu son frère, c'était peu avant sa mort. Mais il ne savait rien des crimes terribles que Thomas aurait pu commettre. Quelques jours plus tard, les résultats de l'analyse ADN de Gregory Miller arrivèrent. Le résultat fut négatif. Miller était innocent et l'enquête revenait à nouveau au point de départ. Une tension sourde régnait de nouveau dans la petite ville. Les habitants locaux, las de l'incertitude, commencèrent à s'éviter. Même ceux qui ne croyaient auparavant à aucune rumeur fermaient désormais leurs portes à double tour, nerveux au moindre bruit fortuit à l'extérieur. L'atmosphère de peur s'empara même des plus confiants, et des plus calmes. La maison numéro 17 restait désormais scellée. Beaucoup l'évitaient, craignant même de jeter un coup d'œil dans cette direction. Les anciens du village chuchotaient des détails qui semblaient auparavant sans importance. Des bruits étranges la nuit, une lumière vacillante aux fenêtres, des silhouettes de personnes apparaissant et disparaissant près de la maison. Mais la police comprenait déjà clairement que tous ces petits détails ne mèneraient à rien de concret. L'enquête piétinait, se convainquant à chaque nouvelle vérification, à chaque nouveau témoin interrogé, que derrière toutes les preuves se cachait quelque chose de plus grand, d'insaisissable, de bien plus effrayant qu'un simple crime. Il semblait que la maison de la rue Chestnut gardait un secret qu'il serait peut-être impossible de percer un jour. C'est cela qui faisait ressentir aux policiers, même expérimentés, un poids et une fatalité à la vue des dossiers remplis de rapports interminables et de photographies où se trouvait une vie étrangère et où ne restait plus qu'une énigme sombre et non résolue. Le temps passait et la petite ville en périphérie du New Hampshire s'enfonçait toujours plus profondément dans les eaux sombres d'une attente anxieuse. Les habitants, depuis longtemps las de l'enquête interminable, évitèrent de se regarder dans les yeux, comme si chacun d'eux pouvait être impliqué dans les événements d'il y a 20 ans. Cependant, malgré les efforts de la police, l'affaire restait non résolue et semblait buter contre un mur invisible. À ce moment-là, les enquêteurs commencèrent à examiner de plus près l'entourage immédiat de la maison numéro 17. L'une des figures clés redevint le voisin d'en face, Benjamin Sullivan. Sullivan, un homme âgé qui avait vécu toute sa vie dans cette maison, changea soudainement radicalement de comportement. Lorsque la police tenta de nouveau de lui parler, il se montra pour la première fois agressif, refusant l'entrée au détective. Un tel comportement surprit la police. Auparavant, il était réservé et froid, mais maintenant il exprimait ouvertement son hostilité. Sullivan déclara qu'il était fatigué des questions et ne dirait rien sans avocat. Lorsqu'on lui demanda un échantillon d'ADN, l'homme refusa catégoriquement, expliquant qu'il n'avait pas à se justifier d'un crime qu'il n'avait pas commis. Les enquêteurs décidèrent de vérifier ce qui préoccupait tant Sullivan et consultèrent les archives de la ville. Il apparut bientôt que la famille Sullivan vivait ici depuis plusieurs générations, et son passé s'avéra loin d'être aussi propre qu'il y paraissait à première vue. Les voisins se souvenaient que le grand-père de l'actuel propriétaire de la maison était un homme extrêmement renfermé et même sombre, et que le père de Benjamin avait été arrêté une fois par la police pour agression sur un voisin, mais s'en était tiré avec une amende et une peine avec sursis. Benjamin lui-même avait grandi silencieux et renfermé, préférant la solitude même dans son enfance, ce qui suscitait parfois l'inquiétude parmi les habitants de la ville. Les détectives décidèrent de vérifier les liens de Sullivan avec la maison numéro 17 et contactèrent l'ancien propriétaire, Patrick O'Connor. Au cours d'un nouvel interrogatoire, Patrick se souvint soudain que le voisin lui avait effectivement proposé à plusieurs reprises de vendre la maison, arguant qu'il voulait soi-disant réunir les terrains. O'Connor avait refusé, car il ressentait une étrange aversion pour Sullivan et ne voulait rien avoir à faire avec lui. C'est précisément après l'un de ses refus que Sullivan se serait fortement fâché, aurait déclaré que Patrick regretterait sa décision et lui aurait littéralement claqué la porte au nez. Ces témoignages devinrent un motif d'arrestation. Un jour gris de décembre, des voitures de police apparurent devant la maison de Sullivan et Benjamin lui-même fut emmené au poste pour un interrogatoire officiel. La ville fut instantanément saisie d'inquiétude car pour la première fois depuis de nombreuses années, la police nommait ouvertement un suspect. Sullivan répondit froidement et brièvement, niant tout lien avec le crime. Lorsqu'on lui proposa de nouveau de se soumettre volontairement au test ADN, il accepta étonnamment après un silence, déclarant qu'il en avait assez de cette persécution et voulait prouver son innocence. Pendant l'attente des résultats de l'expertise, les policiers commencèrent à fouiller les vieilles archives et les effets personnels de Sullivan, essayant de trouver le moindre lien avec ce qui s'était passé au milieu des années 90. Ils examinèrent chaque papier, chaque vieil album, chaque lettre qu'ils purent découvrir dans sa maison. Et voilà qu'en fouillant une pile de vieilles photographies jaunies par le temps, les détectives tombèrent sur une photo qui les glaça sur place. Sur la photographie, datée approximativement de 1994, était immortalisé un pique-nique, manifestement quelque part dans la forêt près de la ville. Parmi plusieurs personnes inconnues au premier plan était assis Sullivan lui-même. Et à côté de lui, une fillette blonde qui ressemblait étrangement à l'image obtenue après la reconstruction faciale de la victime trouvée dans la cave. Tous deux souriaient, comme s'ils étaient très proches. Les policiers, stupéfaits par la découverte, envoyèrent immédiatement la photo pour une expertise supplémentaire. Sullivan, pendant ce temps, restait au poste de police, totalement convaincu qu'il serait bientôt libéré. Et il avait raison, le résultat du test ADN revint négatif. Sullivan n'était pas l'homme dont la trace génétique avait été laissée sur les lieux du crime. Malgré cela, la police le convoqua de nouveau pour interrogatoire. Lorsqu'on lui montra la photographie, l'expression de Sullivan changea pour la première fois en une véritable confusion et anxiété. Il resta silencieux pendant plusieurs minutes, examinant la photo, puis admit à contre-cœur qu'il connaissait effectivement la fillette, mais refusa d'expliquer qui elle était, déclarant qu'il ne se souvenait pas des détails de ce jour-là. Les détectives insistèrent, mais Sullivan répéta obstinément qu'il avait tout oublié. Il avait l'air épuisé, comme si la simple pensée du passé lui causait de la douleur. Après l'interrogatoire, la police dut le laisser rentrer chez lui, faute de motifs sérieux pour le retenir. Mais la photo était déjà devenue une sensation au sein du service de police. Le lendemain, d'autres photographies furent trouvées dans les archives, prises à la même période, sur lesquelles figuraient les mêmes personnes. Au centre du groupe se trouvait à nouveau la même fillette blonde, et à côté d'elle, sur plusieurs clichés, se tenait un homme que personne de la police n'avait vu auparavant et dont les témoins n'avaient pas parlé. Les enquêteurs commencèrent à vérifier les anciennes listes d'habitants, les archives des écoles, les photographies des journaux locaux, essayant d'établir l'identité de l'inconnu. Mais il semblait s'être dissous dans le temps, ne laissant derrière lui que des contours flous sur le vieux papier photographique. La ville replongea dans une attente pesante. Sullivan sortait maintenant rarement dans la rue, évitait les regards des voisins et avait presque cessé de communiquer même avec ses proches. Il devint encore plus renfermé qu'auparavant, et il semblait qu'il était tourmenté non seulement par les soupçons de la police, mais aussi par quelque chose de beaucoup plus profond et douloureux. Les policiers continuaient à examiner silencieusement les vieilles photos, ressentant l'anxiété de voir la résolution de l'affaire s'éloigner de plus en plus. Aucun d'eux ne se doutait alors que la prochaine découverte, faite presque par hasard, changerait leur perception de tout ce qui semblait clair et les obligerait à regarder d'un œil nouveau chaque personne de cette paisible petite ville. Alors que les habitants de la petite ville se repliaient définitivement sur eux-mêmes, l'équipe d'enquête continuait de passer en revue sans succès des dizaines de photographies et de documents d'archives, essayant de saisir le moindre indice. Finalement, dans l'une des vieilles boîtes de documents, une lettre fut découverte, qui s'avéra être la clé d'une nouvelle piste. La lettre était écrite à la main par l'ancien propriétaire de la maison lui-même, Patrick O'Connor, à la fin des années 90. Il y mentionnait son frère, Thomas O'Connor, avec qui il n'avait plus de contact depuis de nombreuses années. Les enquêteurs remarquèrent que Patrick décrivait son frère comme une personne au caractère complexe, colérique et instable, dont l'apparition en ville était toujours liée à des ennuis. La police convoqua immédiatement Patrick pour un nouvel interrogatoire qui se déroula cette fois dans une atmosphère tendue, presque sans pause ni ménagement. Les enquêteurs étaient déterminés. Patrick semblait fatigué et irrité, mais cette fois, il n'esquiva pas et raconta beaucoup plus qu'auparavant. Selon lui, Thomas était effectivement venu en ville vers le milieu des années 90, précisément à la période où tout s'était passé. Patrick se souvenait que son frère avait l'air épuisé et était constamment au bord de la crise de nerfs. Leur relation était si tendue que Patrick avait demandé à son frère de quitter sa maison dès le troisième jour de son séjour. Après cela, ils ne se sont plus jamais parlé. Les enquêteurs consultèrent à nouveau les archives et trouvèrent des enregistrements confirmant que Thomas O'Connor était effectivement en ville pendant la période indiquée. Ils réussirent également à trouver des témoins qu'il avait vus à ce moment-là. L'une des voisines se souvenait clairement comment Thomas marchait dans la rue tard le soir, parlant tout seul et exprimant une certaine agressivité par geste. Il suscitait chez les gens un sentiment d'anxiété et d'appréhension. Mais personne n'osait s'adresser à la police, mettant cela sur le compte de conflits familiaux ordinaires. Le même jour, les détectives trouvèrent plusieurs autres vieilles photographies de Thomas, les comparant à la photo trouvée précédemment, où figurait cette même invitée blonde. L'homme sur les photos ressemblait si fortement au frère de l'ancien propriétaire de la maison que les enquêteurs n'avaient presque plus de doute. L'enquête décida de retrouver Thomas de toute urgence, estimant qu'il pouvait être directement lié au crime commis. Cependant, localiser Thomas O'Connor s'avéra beaucoup plus compliqué que prévu. Il n'avait pas de domicile officiel, n'avait pas payé d'impôts depuis longtemps et n'était pratiquement mentionné nulle part ces dernières années. Son nom était absent même des bases de données officielles des États, ce qui parut très étrange aux enquêteurs. Patrick avoua qu'il n'avait plus eu de contact avec son frère depuis plus de 20 ans et n'avait aucune idée s'il était encore en vie. La police envoya plusieurs demandes aux États voisins, tout en continuant d'interroger les personnes qui pouvaient se souvenir de Thomas. Bientôt, une réponse arriva du Massachusetts. Dans la base de données de la police locale, un rapport d'accident de la circulation survenu à l'hiver 1998 fut trouvé. Le nom de Thomas O'Connor figurait dans le rapport. L'homme était mort sur les lieux de l'accident. Et cela fut officiellement confirmé par des documents et les résultats de l'expertise. Cette nouvelle fut un choc pour l'enquête, car Thomas, qui semblait être le suspect idéal, sortait à nouveau du tableau du crime. Patrick n'apprit la mort de son frère que par les policiers et fut bouleversé par ce qu'il entendit. Il semblait désemparé et sincèrement affligé, et il était évident qu'il ne pouvait pas savoir que son frère était mort plus de 20 ans auparavant. La police décida cependant de vérifier minutieusement les circonstances de la mort de Thomas. Au cours de l'enquête, il s'avéra que l'accident était effectivement banal et s'était produit de sa faute. Sur une route verglacée, Thomas avait perdu le contrôle de sa voiture et avait heurté un arbre. Aucune circonstance suspecte ne fut révélée, et Thomas menait à l'époque un mode de vie extrêmement renfermé et solitaire, ne communiquant pratiquement pas avec son entourage. La raison de sa venue dans la petite ville quelques années avant sa mort restait floue, mais aucune trace évidente le reliant au crime ne fut trouvée. Tandis que les enquêteurs replongeaient dans l'incertitude, les habitants de la petite ville continuaient de vivre douloureusement sous la pression d'une peur constante. Personne ne savait plus à qui faire confiance. Nikki cachait simplement quelque chose de terrible. Chaque nouvelle découverte, chaque nouveau nom, suscitait encore et encore l'anxiété, ne laissant aucune minute de répit aux gens habitués à une vie tranquille. Patrick O'Connor, après tous ces événements, préféra quitter définitivement la petite ville. Il vendit tous ses biens et quitta l'endroit auquel était lié un chapitre si sombre de sa vie. La maison d'en face, appartenant au voisin Sullivan, sombra au contraire dans un isolement et une aliénation encore plus grands. Benjamin Sullivan sortait rarement de chez lui, évitant les regards des passants et cherchant manifestement à se cacher des yeux des autres. Et la photographie qui avait déclenché une nouvelle vague d'enquête reposait désormais dans les archives de la police, et on ne la regardait presque plus. L'homme qui y figurait, Thomas O'Connor, était resté à jamais dans le passé, emportant avec lui le secret de ses venues et les véritables raisons de ses actes. Personne ne pouvait plus lui demander ce qu'il avait fait dans cette maison, ce qu'il savait de ce qui se passait et ce qui s'était réellement produit en ces jours sombres des années 90. Après que la figure de Thomas O'Connor eut définitivement disparu du tableau de l'enquête, les détectives décidèrent de revenir minutieusement au tout début, espérant découvrir des détails qui avaient été manqués dans les premiers jours de l'enquête. Désormais, une attention particulière était accordée aux personnes qui vivaient à proximité immédiate de la funeste maison de Chestnut Street, à l'époque même où le crime avait été commis. L'une des témoins clés était une femme âgée nommée Emily Harper, qui avait vécu dans la rue toute sa vie. Au début, Emily, invoquant son grand âge et sa mémoire défaillante, ne voulait pas parler à la police. Mais après de longues persuasions, elle accepta de raconter le peu qu'elle savait. La femme parlait lentement, s'arrêtant longuement, comme si elle passait soigneusement en revue les événements du passé dans sa mémoire. Emily se souvint comment, Un jour, au milieu des années 90, elle avait été témoin d'un événement étrange. Tard le soir, vers minuit environ, elle avait vu par la fenêtre de sa maison une voiture garée près de la maison numéro 17. Dans la voiture était assise une personne dont le visage était caché par l'obscurité. La voiture n'éteignait pas ses phares, comme si le conducteur attendait quelqu'un. Quelques minutes plus tard, un homme inconnu s'approcha rapidement de la voiture, monta sur le siège passager et la voiture partit. La femme n'avait jamais vu cette voiture auparavant et ne savait pas qui étaient ces personnes. Les policiers écoutèrent attentivement Emily et tentèrent d'obtenir des détails supplémentaires. La couleur de la voiture, la plaque d'immatriculation ou la marque. Mais la mémoire faisait déjà défaut à la témoin. Tout ce dont elle se souvenait, c'était le comportement inhabituel des inconnus et le sentiment d'anxiété qui l'avait envahi ce soir-là. Pendant ce temps, les experts techniques de la police décidèrent de revenir à l'examen détaillé du fût lui-même et de la pièce où il avait été découvert. L'attention des criminalistes fut attirée par des traces à peine visibles sur le sol de la cave, ressemblant à des éraflures dues au déplacement d'un objet lourd. Après une expertise supplémentaire, les spécialistes conclurent « Le fût contenant la découverte aurait pu être déplacé dans la cave quelque temps après la commission du crime ». Cette version provoqua un véritable bouleversement dans l'esprit des détectives, ouvrant de nouvelles pistes d'événements. Désormais, l'hypothèse que le crime ait pu se produire dans un tout autre lieu et que les restes aient été placés dans la cave plus tard, apparut. De nouveaux interrogatoires intensifs des habitants commencèrent, cette fois axés sur la période postérieure aux années 2000. Les enquêteurs vérifièrent tous ceux qui avaient résidé dans la maison après Patrick O'Connor. Parmi les locataires se trouvait une personne dont le comportement attira immédiatement l'attention de la police. Il s'agissait de Robert Harris, qui avait loué la maison entre 2004 et 2006. Il avait rapidement quitté la ville, prétextant un changement de travail, et n'était jamais revenu. Lorsque la police retrouva Robert Harris dans un état voisin, il accepta d'abord volontiers de parler. Cependant, en apprenant le sujet de la conversation, il se referma brusquement et refusa presque complètement de faire d'autres commentaires. On découvrit bientôt que Harris avait un casier judiciaire pour violence domestique, mais aucun crime grave ne lui avait été imputé. Néanmoins, la police insista pour vérifier un échantillon de son ADN qu'il fournit après de longues persuasions. Le résultat s'avéra négatif. Mais le principal résultat de cette étape de l'enquête fut que les détectives se convainquirent définitivement que le crime et le déplacement des restes auraient pas pu être commis à des moments différents par des personnes différentes. Peut-être qu'un des locataires, découvrant une trace du passé d'autrui, s'était simplement débarrassé de la découverte indésirable en la plaçant dans un coin reculé de la cave, ne voulant pas avoir affaire à la police. Cette hypothèse expliquait pourquoi personne n'avait rien remarqué, ni dit pendant si longtemps. Les gens ne voulaient tout simplement pas être entraînés dans les problèmes des autres, et encore moins dans une affaire criminelle. Mais, d'un autre côté, cela rendait tout ce qui s'était passé encore plus sombre et effrayant. Il s'avérait que plusieurs personnes auraient pu être impliquées, directement ou indirectement, dans le crime. Dans une tentative de comprendre quelque chose, les enquêteurs convoquèrent à nouveau Benjamin Sullivan, le voisin âgé, pour un nouvel interrogatoire. Il avait maintenant l'air fatigué, ayant presque totalement perdu l'envie de résister. Sullivan confirma qu'il avait vu Robert Harris et d'autres locataires à plusieurs reprises, mais n'avait jamais parlé personnellement avec aucun d'eux. Il avoua également qu'au début des années 2000, il avait vu des inconnus qui transportaient quelque chose dans la maison. À la question de savoir pourquoi il n'en avait pas informé la police plus tôt, Sullivan répondit sèchement « Ce n'était pas ma maison et pas mes problèmes ». Maintenant, de nombreuses années plus tard, sa réponse ne sonnait pas seulement froidement, mais aussi d'une indifférence effrayante. Après cette conversation, la police décida que Sullivan ne cachait vraiment rien et n'était très probablement pas impliqué dans ce qui s'était passé. Néanmoins, les détectives ne pouvaient se défaire du sentiment qu'il en savait plus qu'il ne le disait et qu'il était simplement fatigué de résister au passé. Finalement, dans les archives de la bibliothèque municipale, trouvées par hasard lors de la vérification de documents de presse, les enquêteurs tombèrent sur un article de 1995. Il y était question d'un incident mineur, un homme inconnu avait été aperçu près de la maison numéro 17 sur Chestnut Street, après quoi il avait rapidement disparu. L'article ne contenait pas de détails, si ce n'est que l'homme avait paru suspect aux habitants locaux. Aucune photographie n'accompagnait l'article, mais la mention de cet homme suscita à nouveau des pensées troublantes dans l'esprit des policiers. Essayant de comprendre ce qui pouvait relier toutes ces personnes et événements, les détectives examinèrent une fois de plus les vieilles photographies, lettres et documents. Mais les réponses leur échappaient, ne laissant qu'un sentiment d'impuissance et de désespoir. Bientôt, les habitants de la petite ville apprirent que la maison numéro 17 était de nouveau en vente pour une somme symbolique. Personne parmi les locaux n'envisagea même de l'acquérir, comme s'ils comprenaient déjà que le sombre secret était lié à jamais à cet endroit. La maison tomba progressivement en ruine, devenant le symbole du fait que le crime qui s'y était produit avait divisé à jamais la vie de la petite ville en un avant et un après. Pendant ce temps, l'enquête se concentrait de plus en plus sur la famille de l'ancien propriétaire de la maison, Patrick O'Connor. Après de longues et pénibles négociations avec des parents éloignés de la famille, un détail important fut découvert, qui était resté caché jusqu'alors. Thomas, le frère décédé de Patrick, avait effectivement une fille que personne dans la famille n'avait vue depuis plus de 25 ans. Son nom était Jennifer. L'histoire de Jennifer s'avéra si complexe et sombre que même les parents eux-mêmes en parlaient à contre-cœur. La mère de Jennifer, dont Thomas était divorcé depuis longtemps, ne communiquait pratiquement pas avec la famille O'Connor après la rupture. Les parents avouèrent qu'après le divorce, Thomas s'était disputé à plusieurs reprises avec son ex-femme au sujet de leur fille, insistant pour qu'elle vive avec lui. Après l'un de ces conflits, survenu vers le début de 1995, Jennifer avait été emmenée par Thomas, et après cela, aucun des parents ne l'avait revue ni entendu parler d'elle. Ayant obtenu cette information, la police convoqua immédiatement Patrick O'Connor pour un nouvel entretien. Cette fois, Patrick semblait abattu et nerveux, ne s'attendant manifestement pas à ce que de vieux secrets de famille refassent surface. Il resta longtemps silencieux avant de parler. Selon lui, Thomas avait effectivement mentionné sa fille lors de leur dernière rencontre, mais en parlait comme s'il avait des difficultés constantes avec elle. Cependant, Patrick affirma catégoriquement qu'il n'avait jamais vu Jennifer personnellement et ne savait rien de son sort ultérieur. Il ne soupçonnait même pas que son frère ait pu l'amener en ville à cette époque. Pendant ce temps, la police vérifiait méticuleusement toute information concernant Jennifer. Les enquêteurs contactèrent sa mère, vivant dans un autre état, qui confirma que Thomas avait effectivement emmené leur fille après un conflit. La femme raconta que dans les derniers jours avant que son père ne l'emmène, Jennifer avait l'air très effrayée et ne voulait pas partir avec lui. Après sa disparition, elle avait tenté de la retrouver par l'intermédiaire de la police, mais Thomas changeait constamment de lieu de résidence et la police des différents États lui refusait son aide, considérant cela comme un conflit familial interne. L'expertise ADN confirma entre-temps les pires craintes des enquêteurs. Les restes trouvés dans la maison numéro 17 appartenaient bien à Jennifer. La police se trouvait maintenant face à une terrible réalité. La parente de Patrick, la fille de Thomas, que l'on croyait simplement disparue depuis de nombreuses années, avait été là tout ce temps et personne ne s'en était douté. Lorsque cette information fut communiquée à Patrick, il parut absolument anéanti. L'homme ne comprenait manifestement pas comment une telle chose avait pu se produire littéralement sous ses pieds. Il insista sur le fait que Thomas n'avait jamais mentionné avoir amené Jennifer dans la maison de Chestnut Street. Cependant, la police doutait de ses paroles. Il était clair que Patrick tentait de se distancier au maximum du terrible crime qui s'était produit dans sa propre maison. Les parents, apprenant la vérité, furent également choqués et commencèrent immédiatement à émettre leurs propres hypothèses. Beaucoup d'entre eux considéraient Thomas capable d'un tel crime, compte tenu notamment de son caractère difficile et de sa tendance à l'agressivité. Selon eux, la cause de la tragédie aurait pu être qu'il n'avait pas réussi à élever sa fille et avait décidé de résoudre ainsi les problèmes rencontrés. Cette version fut activement discutée parmi les parents, convaincu que c'était bien Thomas le coupable de la tragédie. Cependant, malgré ce tableau si clair, les criminalistes s'attendaient à un nouveau rebondissement qui fit douter les enquêteurs de la véracité de cette théorie. Les résultats d'une nouvelle analyse de l'ADN trouvée sur la couverture montrèrent que le matériel génétique n'appartenait pas du tout à Thomas O'Connor. De plus, cette trace génétique indiquait clairement un parent de la famille, et qui plus est, une personne qui était en vie et avait vécu tout ce temps à proximité du lieu du crime. Cette nouvelle secoua non seulement la police, mais aussi les membres de la famille eux-mêmes. Les soupçons se déplacèrent désormais sur quelqu'un qui n'avait même pas attiré l'attention de la police auparavant. Les enquêteurs comprirent que le criminel s'était trouvé tout ce temps à proximité, certain de son impunité absolue. Et maintenant, la tâche n'était plus qu'une. Déterminer précisément qui, parmi les membres de la famille, avait pu cacher un secret aussi terrible pendant tant d'années. La vérification suivante concerna tous les parents résidant dans la ville et ses environs. Parmi eux se trouvait le cousin germain de Thomas et Patrick, William O'Connor, un homme que l'on avait toujours considéré comme un membre exemplaire de la société. Il travaillait comme comptable, vivait tranquillement et modestement, participait régulièrement à la vie publique de la ville et n'avait jamais éveillé les soupçons. C'est pourquoi, lorsque la police le convoqua pour interrogatoire et exigea un échantillon d'ADN, il fut stupéfait et même offensé par une telle approche. William fournit l'échantillon d'ADN sans résistance, affirmant avec assurance qu'il n'avait rien à cacher et que la police perdait simplement son temps. Pendant que les criminalistes attendèrent les résultats, les enquêteurs commencèrent à vérifier attentivement le passé de William. Il s'avéra que, malgré sa réputation impeccable, il avait eu de petits problèmes avec la loi dans sa jeunesse, notamment pour harcèlement envers des femmes, mais il avait alors réussi à éviter une peine sévère. Les parents racontèrent que William avait toujours été trop renfermé et essayait de se tenir à l'écart des événements familiaux, préférant sa solitude. Ces détails alertèrent l'enquête. Et voilà, quelques jours plus tard, les résultats de l'analyse ADN arrivèrent. Le résultat fut sans équivoque, la trace appartenait bien à William O'Connor. Lorsque les enquêteurs lui annoncèrent cette nouvelle, William perdit pour la première fois son calme et commença à être visiblement nerveux. Il resta silencieux quelques minutes, puis déclara qu'il avait besoin d'un avocat. La police comprit enfin qu'elle était sur le point de résoudre l'un des crimes les plus terribles de l'histoire de la petite ville. Et il ne restait plus qu'à obliger William à raconter la vérité sur comment et pourquoi il avait commis ce qui avait choqué toute la ville après tant d'années. Après avoir obtenu les résultats ADN irréfutables, William O'Connor se trouvait en cellule de détention provisoire, en attente de son interrogatoire. Tous ceux qui le connaissaient personnellement ne pouvaient croire que cet homme calme et discret soit impliqué dans un crime aussi cruel. Néanmoins, les faits parlaient d'eux-mêmes. Sa trace génétique ne laissait aucun doute à la police quant à son implication dans les événements qui avaient côte-secoué toute la ville. L'interrogatoire dura plusieurs heures. Initialement, William refusa catégoriquement d'admettre sa culpabilité et même de parler de ce sujet. Mais les enquêteurs lui présentèrent non seulement les résultats ADN, mais aussi des détails qui prouvaient de manière convaincante son implication. Finalement, après une longue pression et des appels répétés à dire la vérité, il céda enfin. Lorsque William commença à raconter, un silence oppressant s'installa dans la salle d'interrogatoire. Il parlait lentement et doucement, s'arrêtant parfois, comme s'il essayait de comprendre comment il en était arrivé à prononcer à voix haute cette terrible vérité pour la première fois. Il s'avéra qu'au milieu des années 90, Thomas, le père de Jennifer, était effectivement venu voir son frère Patrick en ville. Avec lui se trouvait sa fille, que Thomas ne pouvait pas laisser à la maison en raison du conflit avec sa mère. Arrivé en ville, Thomas s'installa chez Patrick, mais leurs relations se détériorèrent rapidement. Thomas demanda alors à William, qui vivait dans la maison voisine et était leur cousin germain, de s'occuper de Jennifer pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il règle ses affaires avec Patrick. Au début, William accepta, car personne ne soupçonnait rien de mal chez lui. Et Jennifer elle-même se sentait assez à l'aise dans sa maison. Cependant, après un certain temps, elle commença à s'inquiéter, à demander quand son père reviendrait et à demander constamment à rentrer chez elle. Cela commença à irriter William, qui n'était pas habitué à la présence d'autres personnes dans sa maison et perdait rapidement patience. Un soir, un conflit éclata entre eux. Jennifer tenta de quitter la maison, mais William, craignant qu'elle ne raconte aux parents son comportement brutal, l'arrêta en utilisant la force. La situation dégénéra rapidement et William, perdant son sang-froid, commit l'acte terrible qui fut découvert de nombreuses années plus tard dans la maison de Patrick. Après l'incident, il paniqua et tenta de se débarrasser des traces. Profitant du départ temporaire de Patrick et de l'absence de Thomas, il pénétra dans la maison de son parent et plaça les restes dans le fût métallique, qu'il cacha ensuite dans la cave, parmi les vieux détritus et les gravats de construction. Il était convaincu que personne ne découvrirait jamais ce qu'il avait fait. Après tout, la maison était abandonnée et Patrick allait bientôt quitter la ville. Au fil du temps, William se persuada presque que cela n'était jamais arrivé. Il reprit une vie normale, continua à travailler comme comptable, maintint sa réputation de citoyen exemplaire et évita tout soupçon. Parfois, il passait devant la maison de Chestnut Street, mais à chaque fois, il s'obligeait à ne pas penser à ce qui s'était passé, espérant qu'avec le temps, son crime serait oublié et resterait à jamais un secret. Pendant ce temps, Thomas, ne retrouvant pas Jennifer à son retour en ville, pensa que la jeune fille s'était enfuie chez sa mère. En raison des nombreux conflits et de l'aversion mutuelle, ils ne communiquaient pratiquement pas, de sorte que ni Thomas ni la mère de Jennifer n'apprirent jamais la vérité sur son sort. Ils se blâmèrent mutuellement pour sa disparition et n'essayèrent pas de clarifier la situation jusqu'au bout. Patrick non plus ne savait rien de ce qui s'était passé. Il vendit simplement la maison et partit, fatigué des problèmes sans fin avec son frère. Ainsi, cette tragédie resta complètement cachée à tous ses participants. Et seul William, restant l'unique gardien du terrible secret, vécut toute sa vie avec le lourd fardeau de sa culpabilité. Après les aveux de William, la petite ville sombra dans le choc. Personne ne pouvait croire qu'un homme calme et discret ait caché un crime aussi cruel pendant tant d'années. La famille O'Connor fut complètement détruite par cette nouvelle, et de nombreux parents cessèrent à jamais de se parler, se sentant coupables de n'avoir rien remarqué d'anormal. William fut arrêté et placé en détention, en attendant son procès. Ses avocats insistèrent sur une expertise psychiatrique, affirmant qu'il avait agi sous le coup de l'affect, sans être pleinement conscient de ses actes. Mais la majorité des habitants de la petite ville ne voulurent pas croire à cette version. Ils exigèrent la peine la plus sévère, estimant que la justice devait triompher pleinement, malgré les années écoulées. Bientôt, William O'Connor fut déclaré pleinement responsable de ses actes. Le procès se déroula rapidement et le verdict fut sévère. Pour beaucoup, ce fut un soulagement. La ville pouvait enfin clore l'affaire qui avait tourmenté chacun de ses habitants pendant plus de 20 ans. La maison de Chestnut Street resta abandonnée et indésirable. Les habitants locaux l'évitaient, croyant que le mal qui s'y était installé un jour ne quitterait jamais cet endroit. Progressivement, le bâtiment se dégrada, sombrant dans l'abandon et l'oubli. Mais l'essentiel, que tous les habitants de la petite ville savaient désormais, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Même la plus terrible, même celle que l'on tente de cacher derrière les murs d'une vieille cave, parmi des fûts rouillés et des objets oubliés,